Voilà, frères et sœurs, c'est vraiment une grande joie d'être avec vous. Hélène, Noémie et David, vous entendez un petit peu le petit David, il a parlé avant moi. C'est vraiment une grande joie. Oui, ça devrait faire un an, effectivement, qu'on est venu. Je réfléchissais, et oui, ça passe vite. Hein.
Oui.
C'est difficile de trouver des dates.
Hein. Ah, on avait essayé au mois de juin.
Ben oui. C'était pas possible. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on est là, puis on reste longtemps, parce que je vous parle ce matin, et si vous avez encore du courage, je vous parlerai encore cet après-midi. Voilà. Alors, ce matin, j'ai choisi un texte qui n'est d'ailleurs pas sans lien. Enfin, je ne vais pas faire les liens volontairement tout au long de la prédication, mais vous aurez vite fait de faire le lien avec ce que je vous dirai aussi cet après-midi, et je me rends compte que c'est tout à fait dans la continuité de ce qui a déjà été partagé en ce moment de culte, ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant. Alors, c'est dans l'évangile de Jean. Voilà, ça marche. L'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 17. Jean, chapitre 15, les versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bon. Oui, ça veut dire que les diapos ne tiennent pas sur l'écran. Oh, ça fait rien, c'est pas grave. C'est pas grave, oui. Donc, comme je vous ai aimé, bien sûr, nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, c'est un texte que vous connaissez certainement déjà, bien sûr. L'évangile de Jean, généralement, fait quand même partie des livres de la Bible qu'on lit le plus. Hein. Et ce passage dans l'évangile de Jean fait partie d'un long discours que Jésus adresse à ses disciples avant son arrestation. Un très long discours, hein, de la fin du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Vous voyez, Jean a pris le temps de le rédiger, de se rappeler ce que Jésus avait partagé avec ses disciples. Alors, on a appelé ce discours le testament de Jésus, puisque c'est juste avant son arrestation. Il exprime les dernières volontés que le Seigneur lègue à ceux qui l'aiment. Alors rien d'étonnant à ce que ces paroles soient emplies d'émotion et de tendresse. Mais elles sont aussi chargées d'exigences. Parce que les disciples de Jésus s'apprêtent à vivre des moments difficiles. Ils veulent suivre Jésus. Nous avons chanté ce matin, nous aussi, que nous voulons suivre Jésus. La voix du Seigneur m'appelle. Il est magnifique ce chant. Mais attention aux paroles, hein, c'est quelque chose. Nous aussi, nous avons chanté que nous voulons le suivre. Et les disciples vont bientôt apprendre, et ça nous l'avons dit dans le chant aussi, que cela passe par la croix. Ils ne seront pas acclamés par le monde, mais ils seront insultés à cause de leur maître et confrontés à l'hostilité. Ils devront continuer pourtant à être témoins de la lumière de Dieu telle qu'ils l'ont découverte en Jésus. Alors dans notre société, Parler d'amour passe plutôt bien. L'amour est servi par les médias à toutes les sauces. Jusqu'aux sauces les plus insipides. On applaudit quand il est question d'amour, mais on trouve aussi normal de le travestir ou de lui être infidèle. Posons-nous la question. Sait-on encore de quoi on parle? Les drames familiaux nous montrent qu'un amour mal compris peut devenir parfois destructeur. Et on interprète souvent à l'envers la déclaration de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous en déduisons qu'il convient d'abord de s'aimer soi-même. Et cela nous arrange bien. Combien de fois j'ai entendu « Ah ben oui, ça veut dire qu'il faut commencer par s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer son prochain. » Oh, Jésus dit exactement le contraire. Il dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie, et le terme dans la Bible est très fort, qu'il se renie lui-même. » Il dit « qui perd sa vie à cause de moi, l'assurera. » Jésus veut dire que le prochain, quel qu'il soit, peut devenir plus important que soi-même. Comme le dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, que chacun ne regarde pas à soi, mais aux autres. Il n'y a pas l'impression que dans notre monde, on a plutôt tendance d'abord de regarder à soi. Oh, je dis ça aussi pour moi, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas seulement pour l'extérieur que je dis cela. C'est tellement plus naturel, quelque part. Eh bien, voilà une victoire sur l'égoïsme dont Jésus nous donne la clé dans son testament. Jésus nous demande même d'aimer nos ennemis. Cela nous paraît impossible. Oh, évidemment, c'est facile d'en parler quand la vie est tranquille, qu'il ne nous arrive pas de grandes difficultés, mais quand les difficultés deviennent sérieuses, oulala, et à vue humaine, étant donné ce que nous sommes et étant donné ce qu'est le monde, effectivement, c'est impossible. Et pourtant, c'est un appel qui est lancé à l'Église de Jésus-Christ. Je vais vous raconter une histoire vraie. Mais on pourrait en donner des centaines d'autres. Je choisis celle-là, il fallait bien en choisir une. Cela se passait en Bolivie, en 1980. Une junte militaire avait pris le pouvoir et elle suspectait les missionnaires américains de soutenir la résistance. Il fallait donc les éliminer. Un soir, dans son village, la missionnaire, qui s'appelait Sarah Colson, entendit les soldats arriver. Après avoir prié pour vaincre sa peur, très important, elle les accueillit aimablement. « Jésus-Christ nous a appris le chemin de l'amour. Même si vous me tuez, je mourrai en vous aimant, parce que Dieu vous aime. »« C'est humainement impossible, » lui répliqua le commandant. « C'est vrai, monsieur, ce n'est pas possible humainement, mais c'est possible avec l'aide de Dieu. » Le commandant donna l'ordre d'emmener tous les hommes du village. Le dimanche, la célébration du culte était interdite. Mais Sarah reçut un message inattendu du commandant. Il voulait se rendre à l'église. Était-ce un piège? Le culte fut maintenu et malgré les risques, l'église était pleine à craquer. Le commandant arriva avec un soldat lourdement armé. Les chrétiens du lieu avait l'habitude de se saluer personnellement avec une accolade. Vous faites ça aussi ici, hein, j'ai vu ça ce matin. Pendant le chant de bienvenue qui introduisait le culte. Les gens de l'assemblée se mirent donc à saluer spontanément les inquiétants visiteurs. Le commandant fut décontenancé. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir attaquer un village, revenir et voir ce village m'accueillir comme un frère. Cette sœur m'a dit jeudi soir que les chrétiens aiment leurs ennemis. Je n'ai pas voulu le croire. Vous me l'avez prouvé ce matin. Je n'ai jamais cru auparavant qu'il y avait un Dieu, mais ce que je viens d'éprouver est si fort que je ne douterai plus de son existence. » Vous vous rappelez que Sarah avait prié. Voyez, Jésus ne nous demande pas de regarder à nous-mêmes, à nos envies, à nos sentiments, à nos facultés. Ce serait, dès le début, emprunter un mauvais chemin. Jésus invite à regarder à lui-même. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Des conflits existaient déjà dans les communautés auxquelles Jean adressait son évangile vers la fin du premier siècle. Et là, il fallait rappeler les exigences d'un amour vrai, d'un amour et de réconciliation possible. Jésus avait revêtu notre humanité. Il avait donc prouvé qu'un chemin d'amour absolu est possible, même au sein de cette humanité. Quand il prononce ces paroles, je vous l'ai dit, Jésus s'apprête à emprunter le dernier sentier, le sentier de la souffrance et de la mort sur la croix. Les disciples vont se rendre compte qu'il est possible de donner sa vie, et même de la donner pour ses ennemis. Mieux encore, ce don de la vie de Jésus est la cause de notre salut, frères et sœurs. Nous sommes sauvés parce que c'est possible. Vous avez déjà pensé à ça? Nous sommes sauvés parce qu'il est possible d'aimer ses ennemis. Jésus nous l'a montré. Et parce que nous sommes sauvés, c'est aussi devenu possible pour nous. Jésus ne nous dit pas d'aimer sans lui. Il dit que nous sommes ses amis dans son testament et qu'il nous a choisis pour porter du fruit, un fruit qui demeure, c'est-à-dire une semence de vie éternelle, un germe de la vie de Dieu. Nous le portons, ce germe. Et il précise même, très important ce verset, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Je lisais dernièrement une interprétation des paroles de Jésus qui disait qu'il fallait passer, donc, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, de l'amour de soi pour être capable d'aimer les autres. C'est un pasteur qui disait ça. Eh bien, je vais vous dire que pour moi, ce n'est pas du tout évident, cette interprétation. Il ne suffit pas non plus de vouloir suivre l'exemple de Jésus. Nous voulons tous suivre l'exemple de Jésus. Puis nous voyons bien que, bon, ce que ça donne. Nous en serions incapables. Mais il nous demande, Jésus, d'aimer avec lui, de le laisser aimer en nous. L'apôtre Paul exhortait ses correspondants, toujours dans l'épître aux Philippiens, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela devient possible quand Jésus lui-même nous donne son esprit. Et nous trouvons là, frères et sœurs, une clé pour comprendre, et non seulement pour comprendre, mais aussi pour vivre les passages les plus difficiles du Nouveau Testament. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vivez en paix avec tous. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Conduisons-nous sans querelle ni jalousie. C'est Paul qui dit ça dans l'Épître aux Romains. Oh, ce genre de passage, nous aurions tendance à les laisser de côté, ou bien alors à les édulcorer. Oh, c'est pas tout à fait ce que Jésus veut dire. Bon, bref. Alors, je n'ai pas l'intention de nous plonger ce matin dans un sentiment de culpabilité. Je serai le premier à le porter, ça c'est certain. Nous le savons bien, frères et sœurs, que nous manquons d'amour. Je n'avais pas besoin de venir ici ce matin pour vous le dire. Vous le savez bien autant que moi. Nous le savons bien que nous avons du mal à pardonner ou à venir spontanément en aide, surtout à ceux qui nous font du mal. J'aimerais simplement diriger notre regard sur Jésus et permettre à notre cœur de s'ouvrir à sa présence. Jésus a pleinement accompli les promesses qu'il avait laissées à ses disciples. Il a pardonné leurs reniements et leurs incrédulités, et il est ressuscité. Il leur a donné son esprit, l'esprit de Jésus. Hein, n'oublions pas, quand on parle de l'Esprit Saint, c'est pas abstrait, c'est vraiment l'esprit de Jésus qui nous est donné. Et il l'a fait pour nous aussi. Son commandement n'est pas un fardeau, mais une libération, une porte ouverte vers une expérience possible dès aujourd'hui de la vie éternelle, de la vie avec lui. Vous voyez, le commandement du Seigneur nous invite à faire aujourd'hui l'expérience de la vie éternelle. Vous vous rendez compte? C'est pas mal quand même, hein? Je vous appelle ami, dit Jésus, alors demeurez en moi et aimez comme je vous ai aimé. La vie éternelle, c'est pas de demeurer en Christ, de demeurer avec le Christ pour toujours. Eh bien, commençons aujourd'hui. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce qu'aimer en fait? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette phrase de Jésus, on la connaît bien, hein? Eh bien, elle nous apporte aussi la réponse à cette question. C'est quoi aimer? Nous avons donné au verbe aimer les sens les plus divers. On aime le chocolat. Moi, j'aime le chocolat. On aime la musique classique. On aime son métier. On aime son épouse. Le même mot peut désigner dans notre monde la débauche la plus effrénée, et les médias ne se privent pas de nous le faire savoir, comme les dévouements les plus désintéressés. Il peut désigner la fidélité d'un homme et d'une femme dans le mariage, comme les dérèglements sexuels les plus étonnants. Quand Jésus parle de l'amour, il n'évoque pas des sentiments qui pourraient apparaître ambigus. Jésus donne un commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, que l'amour soit un commandement, devrait nous alerter. Hein? Aujourd'hui, on dirait, on ne peut pas forcer à aimer, il faut que ce soit un élan libre, un sentiment libre du cœur, et puis ça dure ce que ça dure, puis quand c'est fini, ben, on recommence avec quelqu'un d'autre, et puis voilà, hein, c'est un petit peu comme ça. On ne peut pas forcer à aimer si. Pourquoi l'amour est-il un commandement? Eh bien, nous savons combien il est difficile, justement, et notre monde nous le montre bien, combien il est difficile d'aimer vraiment. C'est un commandement parce que c'est un combat. C'est un combat contre soi-même, et ce n'est pas faire n'importe quoi. C'est un combat de s'approprier cette parole. J'ai besoin d'être bousculé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie, que celui qui donne sa vie, on traduit habituellement, pour ceux qu'il aime. Moi, je veux garder ma vie. Je ne veux pas m'en dessaisir. Ou je ne veux pas la donner. Ou alors un tout petit peu. Hein? Or, dit Jésus, Or, dit la première lettre de Jean, dans le verset que je vous ai mis ici, c'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Aimer, c'est tout donner. Or, tout donner, ce n'est pas forcément se sacrifier et mourir martyr. Heureusement, nous ne sommes pas tous appelés à être martyrs, quand il le faut. Enfin, peut-être être prêt, mais en tout cas, pour l'instant, nous avons la chance d'être dans un pays où nous ne sommes pas persécutés. Mais au quotidien, cela se passe généralement tout autrement de tout donner. Ce sont des attitudes concrètes qui se vivent tous les jours. Et c'est peut-être pas plus facile, finalement. C'est ce qui rend les exigences de l'Évangile si radicales, voyez ça. Ça, c'est du... c'est pioché, comme ça. Sermon sur la montagne. Quiconque se met en colère contre son frère mérite la condamnation. Vous mettez jamais en colère? Moi, ça m'arrive de temps en temps. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Bon, bien sûr. Ne jugez pas afin de n'être pas jugé. À qui te demande, donne. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voyez, ces paroles nous dérangent parce qu'elles touchent la racine de notre égoïsme ou de notre orgueil. Et elles veulent l'éradiquer pour laisser toute la place à l'Esprit de Jésus. Ces paroles, c'est des coups de pioche, des coups de bêche, hein, pour essayer d'éradiquer en nous notre égoïsme et le manque de place que nous laissons à l'Esprit de Jésus. Et quand il parle de l'amour, l'apôtre Paul énumère lui aussi des attitudes concrètes. Vous connaissez très bien ce passage, je pense, 1 Corinthiens 13, à ce qu'on appelle l'hymne à l'amour ou l'hymne à la charité. L'amour prend patience. Oh Seigneur, donne-moi la patience, tout de suite, hein ? Vous connaissez cette prière. L'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Avec ces paroles, hein, qu'on lit souvent dans les mariages, mais... je ne sais pas si on les lit toujours à bon escient. On a l'impression un petit peu que Paul donne un programme de vie. Oui, mais pas d'abord. Paul fait-il la morale avec ses paroles? Non. Que fait Paul en disant cela? Il contemple la puissance de la résurrection de Jésus. Voyez ? Il compte, et toute l'épître aux Corinthiens n'est qu'une, la première aux Corinthiens, ou la deuxième aussi d'ailleurs, enfin, surtout la première, parce qu'elle se termine par le chapitre 15, qui est le couronnement, qui parle de la résurrection. Hein. Toute la première aux Corinthiens est une contemplation de la puissance de la résurrection de Jésus, de ce qu'elle peut faire dans une communauté qui a plein de problèmes. C'est intéressant. Eh bien, c'est ce que fait Paul ici. Il contemple la résurrection du Seigneur. Il décrit, en fait, par ses paroles, la vie du Christ. Vous reconnaissez Jésus derrière ses paroles. Il décrit la vie du Christ et avec elle, la possibilité, bien sûr, qui s'ouvre aussi devant nous de la vie en Christ. Car cette vie, elle nous est donnée. Alors, bien sûr, il ne nous est pas naturel d'aimer ainsi, c'est même complètement fou, c'est même complètement à contre-courant de la société. Il suffit d'entendre, par exemple, la revendication de certains défenseurs de l'avortement, défenseuses en l'occurrence, de l'avortement. Mon corps, mes choix, mes droits. L'Évangile dit exactement le contraire. De renoncer à son corps, à ses choix, à ses prétendus droits, et cela fait entrer dans une autre attitude, un autre élan de vie, qui est le service de la vie du prochain, et particulièrement du plus faible, ici du plus petit, hein, en l'occurrence, dans la lumière de Jésus. Telle est la révolution de Dieu. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ça, c'est la révolution de Dieu, frères et sœurs. Hein? C'est autre chose que les révolutions humaines, hein, que 1789 ou 1917. Hein? Telle est la révolution de Dieu. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Eh bien, c'est justement parce que Jésus, comme je vous ai aimé, parce que Jésus a emprunté ce chemin, qu'il nous est possible de le suivre à notre tour. Jésus se donne et il donne ce qu'il ordonne. Jésus se donne et il donne ce qu'il ordonne. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jésus a donné sa vie sur la croix. Il est allé jusqu'au bout de l'offrande de lui-même. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et sa résurrection est encore le don de sa vie. Quand on dit que Jésus a donné sa vie, on pense à la croix. Mais la résurrection aussi, c'est le don de sa vie. Et c'est drôlement intéressant parce que c'est une vie qu'il nous donne chaque jour, qui est là avec nous tous les jours, il nous accompagne. Il est vivant pour nous aujourd'hui et il se plaît à le répéter dans l'évangile de Jean. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie, donne sa vie pour ses brebis. Je donne la vie éternelle à mes brebis. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Oui, nous sommes toujours dans sa main. Il donne sa vie pour nous accompagner jour après jour aussi. Il nous guide. Vivant, il nous accompagne toujours dans notre cheminement tellement chaotique. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles viennent à ma suite. Ah, elles viennent à ma suite. Allez, ça, je ne résiste pas à le dire. Retenez bien cette expression, nous en reparlerons cet après-midi. Alors, on ne dira pas « aimer comme Jésus est trop difficile ». Je n'y arrive pas, donc ce n'est pas pour moi. C'est souvent ce qu'on entend. C'est trop difficile, ce n'est pas pour moi. Non. Mais on se souviendra de cela. Christ a suivi ce chemin. Je peux y arriver si j'écoute sa voix et si je saisis la main qu'il me tend. Et c'est dans ce sens que Jésus peut encore affirmer « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Et quand le chemin de l'amour est parsemé d'échecs, et nous savons bien ce qu'il en est, quand le chemin de l'amour est parsemé d'échecs, on ne se résignera pas à considérer cette situation comme inévitable. Dans ce cas, la Bible appelle à la repentance et à recevoir de la part du Sauveur la joie du pardon, pour se remettre ensuite sereinement en marche avec lui. Il ne veut pas nous voir sombrer dans les ténèbres du désespoir. Sa parole nous relève. Il le disait dans son testament déjà. « Je vous ai dit cela, pas pour vous écraser d'un fardeau, mais pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Rappelez-vous toujours cela. Jésus veut votre joie aujourd'hui même. Et s'il nous donne des commandements, et même si ces commandements nous paraissent extrêmement difficiles, c'est pour notre joie. Et c'est même pour notre joie éternelle. Une joie parfaite. Alors, bien sûr, nous sommes tous confrontés à nos fragilités. Eh bien, l'apôtre Paul, quand il était confronté à ses fragilités, il s'exclamait « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ?» Et il n'avait plus qu'une prière, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Nous prions. Bien oui, Seigneur, ce matin, nous venons à toi avec nos fragilités, les fragilités de nos vies personnelles, de nos vies familiales, de nos vies d'église. Seigneur, nous venons à toi avec nos difficultés, avec nos combats pour parvenir à te suivre. Peut-être, Seigneur, que nous essayions trop de compter sur nos propres forces. Certainement, Seigneur, que nous ne nous tournons pas assez vers toi, pour puiser en toi la force pour continuer le chemin, pour puiser en toi la joie du pardon et de la vie nouvelle. Alors Seigneur, ce matin encore, nous nous tournons ensemble vers toi, pour que tu viennes semer dans notre cœur la joie de l'Esprit Saint, la puissance de ton Esprit, que tu nous donnes jour après jour cette joie de pouvoir tourner nos regards vers toi qui es mort et ressuscité pour nous, de savoir qu'avec toi toutes choses peuvent devenir nouvelles, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, accorde-nous la joie de ta présence, la joie de te suivre, maintenant et dans l'éternité. Amen.
Amen. Amen.